Chapitre 22. Comment pourrions-nous nous rendre compte qu'un hors-site a pénétré dans la cité unifiée? Ni les matrices ni les satellites ne peuvent le repérer, puisqu'il n'est pas équipé de biopuces. Et nous ne pouvons pas fouiller chaque homme ou chaque femme que nous croisons dans nos rues. Sergueï Gratchouk, New Independent, Londres. Cité unifiée de Nilopa. J'ai eu du mal à croire que Théo était mort. Ce genre d'homme semble indestructible. Il avait la tête cabossée de ceux qui reçoivent des coups et font des excès, mais rien ni personne n'avait réussi à l'abattre. Certains affirment qu'il a été éliminé par les ombres. Moi, ça m'étonnerait pas. Les ombres qui ne se déplaçaient jamais pour un seul homme auraient pu faire une exception pour lui. Quant à ceux qui racontaient qu'il était mort d'une crise cardiaque, ils ne connaissaient pas le bonhomme. Un type de son genre n'aurait sûrement pas claqué d'un problème de cœur. Ni de la cybernétose, ni d'aucune autre foutue maladie. Peut-être qu'il avait trouvé un coin peinard et qu'il nous narguait. Nous, que le pouvoir centralisé de New York faisait tourner en bourrique. La voix criarde d'un présentateur télé agressait le silence de l'appartement de Théo. Il résidait dans l'un de ces immeubles parisiens anciens qui, en dépit des différentes mises aux normes énergétiques et sécuritaires, avaient conservé un charme suranné. Ganesh et Ava avaient pu s'y introduire malgré les trois codes réclamés par le système de sécurité relié aux matrices. La biopuce de Ganesh était passée d'elle-même en MDC pour craquer les différents barrages. Il s'en était inquiété puis, une fois dans l'appartement de Théo, ne s'était plus préoccupé que du sort du fouineur, fouillant rapidement le minuscule logement. Il n'avait rien trouvé d'autre qu'un lit défait, les reliefs pourrissant d'un repas, des épluchures dans la cuisine, des canettes vides, et du linge sale étalé sur le parquet. « Rien de rien de rien !» maugréa Ganesh. « Quelqu'un a bien dû allumer cette télé pourtant !»« Il y a plein de gens qui laissent leur écran allumé malgré les consignes !» rétorqua Ava. « Et plein de mecs qui sont capables de laisser ce genre de bordel dans leur appartement !»« Il souhaitait que je passe chez lui, j'en suis persuadé !»« Et si Théodore était mort de mort naturelle, il n'était pas en grande forme ?» Exaspéré par la voix criarde de l'animateur, Ganesh coupa la télé. L'écran souple se replia sur lui-même dans un sifflement prolongé et disparut dans le socle posé sur un meuble bas. « Tant que je n'aurai pas vu son cadavre, je ne croirai pas qu'il est mort, » murmura-t-il. « Tu as lu le rapport sur ton endophone, non? On n'a relevé aucune trace sur son corps. Pas d'empreinte digitale, pas d'ADN. » Le rapport d'autopsie du légiste annonçant la mort du fouineur Théodore Bernier s'était affiché directement dans le cerveau de Ganesh. La cause du décès restait indéterminée. Il se demandait toujours s'il n'avait pas été victime d'une illusion sensorielle provoquée par l'activité de sa biopuce. « C'est justement la caractéristique des ombres, » reprit-il. « Elles ne laissent aucune trace. On ne peut tout de même pas leur imputer l'ensemble des décès des cités unifiées, encore moins les décès isolés. Théodore les a vus avant de mourir. Il affirmait savoir qui elles étaient, d'où elles venaient. Il a dû laisser un indice. On a déjà passé son appartement deux fois au crible. J'ai recompté même les acariens. Il a dit qu'il fallait chercher ailleurs. Ailleurs sur le plan géographique, ailleurs sur le plan de la raison, de la logique. On recommence la fouille. On est probablement passé à côté de quelque chose. » Ava soupira et joua un petit moment avec les mèches de ses cheveux blonds. « Putain, mec, quand t'as une idée en tête... » L'œuvre entreprise par les ombres datait probablement d'avant la fondation des cités unifiées, celle-ci n'étant par ailleurs qu'une étape de leur plan. Personne n'avait rien vu venir, ni ceux qui se prétendaient les sentinelles du futur, ni les scientifiques, ni les philosophes, ni les journalistes, encore moins les hommes et les femmes politiques, qui, trop affairés à se battre pour conquérir et conserver le pouvoir, favorisaient involontairement le dessein de l'ennemi ultime de l'humanité. Combien de couleuvres avions-nous avalées au nom de la sécurité, du confort, du divertissement, du sentiment illusoire d'appartenir à une élite? Tout s'est déroulé comme prévu. Caton tenait sa revanche et ne cherchait pas à dissimuler sa jubilation. Le maire de Paris a été mis en minorité. L'Assemblée a voté le recours à l'article 72A et confié les pleins pouvoirs de la cité unifiée au maire de New York. Les officiers de l'état-major ont tous été soudoyés pour apporter leur soutien au nouveau système politique. Quand comptez-vous proposer la nouvelle génération de biopuces au maire de New York ? Aucune émotion dans la voix de son correspondant, au timbre légèrement vibrant, caverneux. La prochaine attaque sera deux fois plus meurtrière que les précédentes, répondit Caton. Suffisamment traumatisante pour marquer les esprits. Le pouvoir accueillera la nouvelle biopuce comme un don du ciel. Êtes-vous certain de vous être débarrassé de tous les grubs dissidents ? Deux des trois derniers ont été éliminés. La dernière, Vilma Callaghan, a disparu, mais nous la retrouverons tôt ou tard. Elle est isolée de toute façon, elle ne nous gênera plus. Ne sous-estimez aucun pouvoir de nuisance. Elle ne songe plus qu'à sauver sa peau. Nous gardons en mémoire qu'elle fait partie de ceux qui ont failli découvrir la vérité. Ils se sont brûlés les ailes en s'approchant trop près du soleil, ce sont des icares. La vérité n'est pas le soleil. Pardonnez-moi, il s'agissait d'une simple métaphore. Le principal est qu'ils aient été neutralisés. Nous devons veiller à ce que l'entropie ne se glisse pas par d'autres failles. L'entropie est votre principal ennemi, n'est-ce pas ? Nous essayons seulement de maîtriser notre destin. Ce qui revient à suspendre le temps. Qui peut prétendre arrêter le temps ? Caton n'attendit pas de réponse pour mettre fin à la communication. Ava se laissa choir dans le canapé de cuir noir. Inutile. On ne trouvera rien de plus. On devrait plutôt rentrer pour faire notre rapport. Tu deviens administrative, Ava. Ganesh ouvrit pour la 20e fois un tiroir de la commode et l'inspecta du regard. Le rapport attendra. Théo m'a dit que nous devions réfléchir autrement. S'il a laissé un message, ce n'est certainement pas sur son ordinateur moléculaire, ni sur son biophone, encore moins sur un bout de papier. Les ombres l'auraient repéré et détruit. Où alors ? Deux secondes, je consulte ma biopuce. Aucun message de Théodore Bernier dans la base de données. Aucun message de Théodore Bernier dans la base de données. Ganesh se dirigea vers le coin cuisine. On a déjà fouillé la cuisine, objecta Ava. On a trouvé que dalle. Elle se leva et rejoignit le fouineur dans la petite pièce pourvue d'une lucarne minuscule d'où tombait une lumière grisâtre. En plus, c'est un vrai bordel, poursuivit-elle. Il faisait pas souvent le ménage. Faudrait aérer. Je parie que tous les appartements des vieux fouineurs se ressemblent. Marmonna Ganesh. Quand on vit longtemps seul, on finit par ne plus prêter attention à son propre désordre. Les épluchures de citron, d'oignons... Il s'interrompit, frappé par une évidence. Faut trouver un bout de papier vierge. Dans la poubelle, peut-être. Attends, tu veux pas dire que le vieux truc de l'encre sympathique, citron, orange, oignon, il suffira de chauffer la feuille de papier pour lire le message. Tu déconnes. Théo n'aurait jamais utilisé un procédé aussi archaïque. Trop archaïque pour la technologie, justement. Comme les alarmes qui détectent le moindre souffle et qui sont incapables de repérer une lame ou une pierre. Il aurait eu besoin de temps pour rédiger un message de ce genre. Presser un citron, tremper une pointe de couteau dans le jus, écrire. Tu m'as dit que l'attaque des ombres avait été foudroyante. Il se sentait menacé, il l'aura écrit avant. Ganesh écarta les bras. C'est une hypothèse, hein, pas une certitude. Probabilité. 18%. Ganesh avisa la vieille poubelle à ouverture mécanique et pressa la pédale. Là, peut-être. Il fouilla dans les déchets et en tira des bouts de papier non chiffonnés, mais maculés de taches. C'est crade, fit Ava avec une moue. Tu ne seras jamais une vraie fouine si tu refuses de mettre ton nez dans la merde. Tu me passes ton briquet ? Elle le lui tendit après avoir allumé une cigarette parfumée. J'ai pas encore ma biopuce. Elle cracha une longue guirlande de fumée bleutée. Je devrais peut-être pas fumer. T'en fais pas. Cette ville a des yeux et des oreilles partout. Nos supérieurs savent qui fabrique et fournit les cigarettes et qui les fume. S'ils laissent faire, c'est qu'ils y trouvent un quelconque intérêt, d'abord financier. Ganesh alluma le briquet et passa la flamme sous un premier bout de papier. Rien là-dessus. Il le froissa, le jeta dans la poubelle, en saisit un deuxième et effectua les mêmes gestes. Là ! Quoi ? Je vois rien. Il faut se placer sous un certain angle. Ava s'approcha et l'enveloppa d'un mélange de parfum et de tabac. Tu sens bon, c'est quoi ton parfum ? Dis donc, tu serais pas en train de me draguer ? Ganesh déplaça le bout de papier devant les yeux d'Ava. Et comme ça, tu vois ? Ouais, mais c'est écrit avec les pieds, j'y comprends que dalle. Ah, ça brûle, cette connerie ! Ava se recula avec un petit sourire. « Le feu, ça brûle. T'étais pas au courant ?» Ganesh ralluma de nouveau le briquet et en balada la flamme devant le papier levé à hauteur de ses yeux. « Ce mot, je crois que c'est « réseau » et plus loin c'est « lettres ». N-T-H-C. N-T-H-C ? On dirait l'acronyme d'un ancien format vidéo. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Qu'il a laissé un message sur une vieille vidéo ? Je crois plutôt qu'il n'a pas eu le temps de rédiger le mot ou la phrase en entier. Ta biopuce ne te suggère rien ? Étant donné le nombre de mots commençant par N, T, H et C, ça représente quelques milliards de combinaisons. Faut seulement qu'elle détermine les probabilités les plus logiques avec le mot réseau. Ça peut prendre du temps. Temps estimé pour recherche réseau NTHC. 5 jours, 3 heures, 22 minutes. 5 jours, murmura Ganesh. Beaucoup trop long. Quoi 5 jours? Le temps estimé par ma biopuce pour l'analyse. Elle prend son temps. Rien d'autre sur le papier ou sur d'autres papiers? Ganesh vérifia les autres bouts de papier avec la flamme du briquet. Rien. Mais j'ai l'intuition que Théodore cherche à nous diriger vers l'extérieur. L'intuition, s'étonna Ava. Je croyais que les fouineurs se basaient uniquement sur la logique. L'univers n'est pas fait que de logique. La physique quantique elle-même repose sur le principe d'incertitude. Ailleurs sur le plan géographique, ailleurs sur le plan de la logique, de la raison. Ce sont les dernières paroles prononcées par Théo. Ava accueillit d'une moue sceptique l'hypothèse de Ganesh. M'étonnerait que la solution se trouve dans le pays vague. Aucun hors-site ne peut pénétrer dans les cités. Ça, c'est ce que prétendent les maires et leurs adjoints, répondit Ganesh. Les populations hors-site ont peut-être trouvé le moyen de déjouer la surveillance des satellites et les systèmes d'alarme. Tu sais très bien que les patrons ne te laisseront jamais mener une enquête à l'extérieur. Les seuls qui sortent, ce sont les militaires et les éboueurs. Par où tu commencerais d'ailleurs ? C'est vaste, le pays vague. Ganesh haussa les épaules. J'en sais foutre rien. Ma biopuce n'ouvre aucune piste. Il me faudrait un autre indice. Qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Je rentre chez moi. J'ai besoin de prendre du repos. On se rejoint dans 4 heures au central. Ça te va ? Ava parut hésiter. J'avais pensé que... Quoi ? Rien. À tout à l'heure. En tant que frère, j'assistais régulièrement aux séances dans le domaine crypté, même si je n'intervenais pas souvent. Pas facile de deviner que des membres de notre fraternité nous avaient trahis. J'avais moi-même reçu des appels d'interlocuteurs tentant de me convaincre de la nécessité d'instaurer un régime centralisé. J'avais protesté vigoureusement, raison pour laquelle, sans doute, ils ne m'avaient pas proposé franchement de me corrompre. Mais leur tentative prouvait 2 choses. 1. Qu'ils connaissaient chacun d'entre nous malgré le secret dont nous nous prévalions. 2. Que selon la loi des statistiques, ils trouveraient obligatoirement des brebis galeuses parmi les frères. La gangrène de la corruption gagnait tous les niveaux de la cité, y compris les sociétés secrètes rassemblées autour d'un idéal. En tant que président de séance, je déclare la session ouverte. Qui veut prendre la parole ? Nous avons été trahis. Contrairement à ce que vous m'aviez promis, aucun officier de l'état-major ne s'est dressé contre la résolution de confier les pleins pouvoirs au maire de New York. L'équilibre de la cité unifiée est rompu. Du calme, ce n'est qu'un état temporaire. Dès que le problème des ombres aura été résolu, les choses rentreront dans l'ordre. Ne vous payez pas de mots. Vous savez très bien que le nouveau pouvoir se structurera pour durer. C'est le principe de tout organisme, et une organisation est un organisme. Un ou plusieurs membres de la fraternité nous ont trahis. Si nous voulons agir pour restaurer l'équilibre, nous devons impérativement savoir qui. Notre fraternité n'est pas basée sur la défiance ni sur la suspicion. Alors elle est morte avec le coup d'État du maire de New York. Morte pour moi. Je trouverai un autre moyen d'entrer en résistance. Y a-t-il d'autres frères qui réclament la dissolution ? Moi ! Nous avons échoué. Nous devons en tirer les conséquences. Moi ! Moi ! Bien. En tant que président de séance, le devoir m'incombe de prononcer la dissolution de la fraternité et de fermer le domaine de communication. Bonne chance à tous. Ganesh frappa à la porte du bureau du chef de groupe. Ardouin l'invita à entrer et l'accueillit d'un sourire plutôt rare.
« Quoi de neuf, Ganesh ?»«
Pas grand-chose. »« Pas d'indice chez Théodore ?»« Un mot et quatre lettres écrits au jus de citron sur un bout de papier. »« La biopuce ne m'a proposé aucune piste intéressante. » Ardouin se massa les tempes. « Le nouveau patron du central a reçu la visite d'un adjoint au maire de New York ce matin. » Le nouveau pouvoir attend des résultats concrets. On en est à plus de 110 000 morts depuis l'apparition des ombres. Tout le monde patauge. On exige des résultats avec, disons, un peu plus d'insistance. Faut se bouger le cul. Ce n'est pas en s'agitant comme des mouches qu'on changera quoi que ce soit. On doit au moins faire illusion, jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de solide à leur mettre sous la dent. Ganesh se demanda une nouvelle fois s'il devait parler au chef de groupe du résultat de ses cogitations. Quelle case occupait Ardouin sur l'échiquier de Nilopa? Et si la solution ne se trouvait pas à l'intérieur de la cité unifiée, finit-il par lâcher. Ardouin leva sur lui un regard à la fois interrogateur et excédé.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Théo a dit qu'il fallait chercher ailleurs sur le plan géographique, se lança Ganesh. Ailleurs sur le plan de la logique. Théodore était un excellent fouineur. Mais je viens de recevoir les résultats de son autopsie. On lui a diagnostiqué un début de cybernétose.
Une vraie saloperie, la cybernétose. Une maladie qui touchait un fouineur sur trois. La présence de la biopuce pouvait provoquer un dérèglement des synapses et des neurones. Et le fouineur atteint finissait par perdre complètement les pédales. Comme il devenait dangereux pour lui et pour les autres, on l'internait jusqu'à sa mort. Qui survenait en général dans les 5 ans. J'ai rendu visite à d'anciens collègues malades de cybernétose, et je me suis promis de me supprimer plutôt que de subir une telle déchéance. Je les reconnaissais pas. Ils ne me reconnaissaient pas. Ils vivaient dans un monde de données incohérentes, qu'ils régurgitaient de façon mécanique, comme des machines folles.
Oublie tout ce que Théodore a pu te raconter. Il est mort d'une attaque cérébrale, et les ombres ne se sont jamais déplacées pour un seul homme. Même si cet homme avait appris quelque chose à leur sujet, Ardouin secoua la tête. J'étais son chef de groupe. S'il avait vraiment dégoté des éléments nouveaux, Théo m'en aurait informé. Nous repartons une nouvelle fois de zéro.
Ça veut dire que nous n'avons pas d'autre choix que d'attendre le prochain passage des ombres.
Ganesh se dirigea vers la porte, puis revint sur ses pas.
Ah, et cette séquence vidéo que vous avez reçue? Vous aviez dit qu'elle était terrifiante.
Le chef de groupe ne parvint pas à soutenir le regard du fouineur.
Laisse tomber, Ganesh. Ça n'a pas grand intérêt. On a vraiment autre chose à foutre. L'armée s'occupe désormais des émeutes. Le nouveau patron, un New-Yorkais, nous met une pression d'enfer. Ah oui, comme Ava n'a plus de maître de stage, c'est toi qui t'en occuperas.
Ava?
C'est-à-dire que... Le chef de groupe le congédia d'un geste impatient.
Rien du tout. Elle t'attend dans ton bureau.
Ganesh descendit d'un étage pour regagner son bureau.
Ava s'y trouvait, assise sur une chaise, une tasse en main.
« Salut Ganesh, bien reposé ?»
Il se servit une tasse de thé sans prononcer un mot.
« Écoute, c'était pas mon idée, » reprit-elle.
« J'ai encore rien dit.
Je peux essayer de trouver un autre fouineur, si tu veux pas de moi comme stagiaire. »
Ganesh glissa 3 morceaux de sucre dans sa tasse. Il avait envie d'un thé sucré jusqu'à l'écœurement. Comme il en avait bu quelquefois dans les boutiques indiennes du 10e arrondissement.
Le chef de groupe prétend que Théo était atteint de cybernétose, fit-il.
Je n'en crois rien. Réseau NTHC. La base de données me propose les 150 000 réponses les plus logiques. Beaucoup de boîtes de logiciels, la plupart américaines, des hôpitaux, des hôtels, un tas d'acronymes divers. Comment m'y retrouver là-dedans?
Il but une gorgée de thé qu'il jugea encore trop fade. Il ajouta un nouveau morceau de sucre.
À moins que...
Avant de juger qu'un être est bon ou mauvais, vois quel est ton intérêt de le juger bon ou mauvais. Proverbe de Vignon, agglomération des bords du Rhône. Pays hors site.
Je me suis souvent posé cette question. Pourquoi le sud du pays hors site
malgré son climat plus chaud, était-il moins peuplé que le nord? On a dit et répété que le sud était plus pollué que le nord à cause des batailles acharnées qui s'y déroulèrent durant la Grande Guerre et des bombes à uranium appauvries tombaient en masse des grands drones, à cause également des explosions des centrales nucléaires disséminées sur le Rhône. Mais l'explication ne me paraît pas suffisante. Les vents et les pluies avaient dispersé depuis longtemps les particules radioactives sur tant le territoire hors site, contaminant, à mon avis, l'ensemble des régions. Mais le sud continuait de pâtir de sa mauvaise réputation. La rumeur courait que là-bas, les gens et les bêtes, victimes de mutations génétiques, étaient devenus fous. Qu'il n'y avait plus aucune règle, que la mort vous guettait au détour de chaque chemin, de chaque rocher, de chaque buisson, que la Grande Bleue recelait en son sein saumâtre des créatures monstrueuses qui, la nuit, sortaient de l'eau pour se glisser dans les habitations et dévorer leurs occupants. Pourtant, lorsqu'on mettait les pieds dans le sud, on se sentait tout à coup allégé, ensorcelé par les odeurs, rassuré par la lumière, bercé par le vent chaud, les craquements de la terre et les stridulations des insectes. Le danger guettait un peu partout, certes, mais pas davantage qu'ailleurs. Je prétends même qu'il vaut mieux vivre dans la peur sous le soleil que dans l'ombre humide des forêts inextricables. Même si j'ai perdu une femme et un fils dans l'aventure, jamais je n'ai regretté d'avoir parcouru le long chemin qui mène des bords du Seine aux rives découpées de la Grande Bleue. La rivière se jetait dans un cours d'eau majestueux au courant violent.
Le Rhône !
Les rafales de vent et le grondement sourd de l'eau avaient contraint Kolb à crier. Delune dirigea le radeau vers la berge avant la jonction. L'embarcation commençait à donner des signes de fatigue, et la navigation sur le fleuve tumultueux risquait de la disloquer. Le paysage s'était peu à peu modifié. Aux forêts profondes et sombres avaient succédé des collines habillées de rochers, d'arbustes et de buissons bas. Le ciel s'était dégagé. Le soleil, qui brillait de tous ses feux dans un ciel bleu pâle, dissipait l'humeur glaciale abandonnée par la nuit. Ils halèrent le radeau sur une grève de terre, et, avec les maigres branches de bois disséminées dans les environs, allumèrent un feu pour faire cuire les deux ragondins capturés la veille. Kolb récupéra les peaux.
« Le commencement de la fortune » ricana-t-il.
« Tu comptes les vendre où ?»
demanda Naya. Bien qu'elle ait boutonné la veste de Delune jusqu'au col, elle continuait de grelotter et n'osait pas se laver. Elle avait passé une nuit détestable sous l'abri sommaire de branchages fabriqués par les deux hommes. Recroquevillée sur elle-même, elle n'était pas parvenue à se réchauffer, n'osant pas se serrer contre Delune qui dormait à ses côtés. C'était à elle de prendre l'initiative, elle le savait. Le guérisseur, un puits de connaissances et de sagesse malgré son jeune âge, paraissait aussi à l'aise avec les sentiments qu'un poisson hors de l'eau. Quelque chose en elle l'empêchait de faire le premier pas. Une forme de timidité ou de pudeur qu'elle n'avait jamais expérimentée. Peur de le décevoir, peur d'être rejetée, peur de ses élans qui semblaient la projeter loin d'elle-même. Ils n'avaient pas trouvé de vêtements depuis leur départ de Tchon et elle se sentait vulnérable. La veste pourtant chaude de Delune ne suffisait pas à lui épargner les morsures du froid et elle devait sans cesse surveiller ses positions pour ne pas offrir aux autres le spectacle de son intimité. Elle vérifia une nouvelle fois que son pistolet était toujours à la même place, dans la poche intérieure, avec le chargeur supplémentaire.
« On trouvera quelques agglomérations plus loin, » répondit Kolb.
« Aussi accueillante que Tchon ?»«
J'en sais foutre rien. J'espère seulement gagner suffisamment pour pouvoir me racheter un fusil. »«
Il y a des armuriers partout ?»
De la pointe d'une branche, Kolb remua les ragondins sur les braises.
« Dame, oui. Le commerce des armes est l'un des plus florissants. Mais les armes ne sont pas toutes de la même qualité. Il y en a qui t'explosent à la figure au deuxième ou troisième coup. Celles fabriquées par le clan du feu de Tchon font partie des meilleures. »
Yosp ne prêtait aucune attention à la conversation. Il n'avait pas prononcé le moindre mot depuis deux jours. Retiré si profondément en lui-même qu'il semblait absent de son corps. Il n'ouvrait la bouche que pour engloutir les morceaux de viande grillée avec une gloutonnerie invraisemblable. De temps à autre, de grosses larmes roulaient sur ses joues sans raison apparente. Delune inspecta le radeau. Les cordes commençaient à craquer.
rongée par l'eau, et les rondins à se dissocier. « Il ne tiendra pas sur le fleuve, » déclara-t-il. « Faudrait fabriquer de nouvelles cordes pour resserrer les rondins entre eux. »
« Où veux-tu qu'on dégote des cordes ?»
grogna le trappeur.
« Mais t'as vu qu'on doit continuer à pied ?»
Certaines plantes parasites font d'excellents liens. De Lune observa un long moment les environs. Peu de chance d'en trouver dans ce genre de paysage.
« Le sud, c'est rien que pelure et compagnie, » confirma Kolb. « Du chaud, du sec, du rabougri, y a qu'à suivre le fleuve jusqu'à son embouchure. On pourra piéger les bêtes qui viennent boire et nous conduira tout droit à la Grande Bleue. »
Les yeux de Delune se posèrent sur Naya et s'attardèrent une poignée de secondes sur ses jambes découvertes. Le trouble qu'elle perçut dans le regard du guérisseur ne lui déplut pas, bien au contraire. Suivant les conseils du trappeur, ils abandonnèrent leur radeau et longèrent la rive du fleuve. La chaleur grimpant rapidement, Naya regretta de ne pas pouvoir retirer la veste épaisse de Delune. Yosp, lui, ne se gêna pas pour se débarrasser de ses vêtements et exposer son torse malingre aux rayons brûlants du soleil.
« Fais attention au coup de soleil, mon gars !» prévint Kolb. « T'as la peau plus fragile que du givre !»
Yosp continua de marcher allègrement une dizaine de mètres devant eux, ravi de fouler la terre ferme après ces quelques jours passés sur l'eau. Ils ne croisèrent pas un être vivant jusqu'au crépuscule, quand la faim, la soif et la fatigue les poussèrent à s'établir pour la nuit au pied d'un massif rocheux. Se fiant aux brisées imprimées dans la terre sèche, le trappeur creusa des cavités, les hérissa de pieux et les couvrit de branchages. Delune, lui, confectionna des fagots liés avec des branches vertes et souples pour attraper des anguilles ou d'autres poissons. Pistolet en main, Naya guettait les moindres frémissements dans les buissons environnants et les apparitions éventuelles d'animaux, grands ou petits.
« Tu ferais mieux de garder tes balles pour d'autres occasions !» lui lança Kolb. « On n'en a pas besoin pour chasser !»
« Même si c'est un ours gris ?»«
Les ours gris sont moins dangereux que les hommes, » intervint Delune.
« Ça dépend des ours, ça dépend des hommes, » objecta le trappeur. « Il y a un truc que je voulais te demander depuis longtemps. Ça vient d'où, ton nom de Delune ?»«
Du jour où mon père m'a arraché mon pantalon et m'a condamné à me balader toute une journée les fesses à l'air. » Les éclats du rire de Naya soufflèrent sur la gêne du guérisseur comme le vent sur les braises.
« Les heures me parlent !» fit soudain Yosp.
« Elles te disent quoi ?» demanda Kolb.
« Les hommes rasés. Ils viennent sur l'eau. Ils sont féroces. »
Le trappeur se releva et scruta un long moment le fleuve.
« Je vois que dalle, tu te gourres cette fois, mon gars. »«
Il ne se trompe jamais, » objecta Naya.
« Ça n'existe pas quelqu'un qui ne se trompe jamais, »
ronchonna Kolb. « Féroce, c'est comme méchant ?» demanda Delune. Yosp rejoignit le guérisseur près de l'eau. Sa peau rougie présentait déjà des cloques. Delune les examina. Il trouverait certainement dans le coin de quoi apaiser ses brûlures.
« Les heures me disent, ils enlèvent des gens, massacrent d'autres, pillent et détruisent leurs maisons. »
« Jamais entendu dire qu'il y avait des pirates sur le Rhône, »
objecta Kolb. « Ils viennent peut-être du nord, » suggéra Naya. Ils attrapèrent un blaireau à la tombée de la nuit, immangeable, selon le trappeur. Les fagots de Delune, en revanche, piégèrent deux énormes anguilles à la chair grasse et un peu fade. Ils confectionnèrent un nouvel abri avec des branches, dans lequel ils s'installèrent pour la nuit. Naya s'arrangea pour être allongée sur la partie gauche de la construction de fortune, contre Delune, tandis que Yosp et Kolb se partageaient le côté droit. Cette fois, elle se colla délibérément contre le guérisseur. Lui saisit la main pour la glisser sous sa veste et la poser sur ses seins. Elle craignit à tout moment qu'il ne la retirât, effarouchée. Mais il la laissa sur sa poitrine. Le contact doux et tiède de sa paume, associé à son souffle chaud et précipité, se diffusa dans tout le corps de Naya. Les garçons qu'elle avait connus ne lui avaient jamais procuré de telles sensations. Elle n'osa plus bouger, de peur de rompre l'enchantement. Il restait également immobile, comme stupéfait. Rassurée par les ronflements de Kolb et de Yosp, elle hissa lentement son visage à hauteur de celui de Delune et chercha ses lèvres. Il répondit à son baiser avec une sensualité étonnante, inattendue. Rien à voir avec les embrassades goulues et maladroites de ces amoureux éphémères du noyau. Elle eut l'impression de s'ouvrir comme une fleur sous les rayons du soleil. La main de Delune explora son corps, épousa les courbes de son ventre, de ses hanches, se glissa entre ses jambes. Le soupir qui s'échappa des lèvres de Naya réveilla Kolb.
« Hein ? Quoi ?»
s'écria le trappeur. Delune retira précipitamment sa main et se figea, respiration suspendue. Naya pesta contre elle-même, se promit que la prochaine fois, elle se débrouillerait pour être seule avec lui, ou pour mieux maîtriser ses réactions. Puis, ravie malgré cette fin précipitée, elle s'abandonna au sommeil. Premier à sortir, Yosp poussa un cri d'effroi. Kolb se précipita à son tour dehors et tomba nez à nez avec des hommes et des femmes entièrement glabres, déployés autour de l'abri. Leurs embarcations larges, plates, ceintes de garde-corps et équipées de constructions en bois, avaient accosté sans bruit.
« Les hommes rasés, hein » murmura-t-il à l'adresse de Yosp. « Putain, tu te gourres donc jamais !»
Naya et Delune se glissèrent à leur tour hors de l'abri.
« Qu'est-ce qu'ils veulent, bon Dieu ?»
marmonna le trappeur à voix basse. Impossible de discerner une intention dans les yeux ni sur les traits de ceux qui les fixaient sans un mot. Vêtus de peau plus ou moins bien tannée et coupée, ils portaient à la ceinture des poignards enfoncés dans des gaines de cuir. Pas d'armes à feu apparentes. Ils ne se rasaient pas, mais étaient dépourvus de tout système pileux, sourcils et cils compris. Naya gardait son pistolet dans l'une des poches extérieures de sa veste, le cran de sûreté déverrouillé et les doigts agrippés sur la crosse. Delune s'avança de deux pas dans leur direction. « Qui êtes-vous ? Et que voulez-vous ? » Ils se consultèrent du regard, comme s'ils n'avaient pas compris la question. Un cri d'enfant s'échappa de l'une des constructions en bois des radeaux. Une femme se détacha du groupe et courut vers l'embarcation. L'un des hommes désigna le fleuve d'un geste du bras.
« Allez sud par fleuve !»
déclara-t-il en articulant chacune de ses syllabes. « Nous aussi, mais par la terre !» dit Delune. « Vous venez d'où ?»«
Ancienne Allemagne. Pourquoi n'avez-vous plus de cheveux ?»«
Mutation. Allemagne polluée, atome. » »«
Pourquoi voulez-vous aller dans le sud ?»«
Trop froid. Sud meilleur, chaleur. » »«
Avez-vous entendu parler des cavaliers de l'Apocalypse ?» La grimace de son interlocuteur indiqua à Delune qu'il n'avait pas compris la question.
Des espèces de cinglés qui tuent tout le monde et foutent le feu aux maisons, intervint Kolb.
L'interlocuteur ne semblait toujours pas comprendre. Mais après qu'une femme eut prononcé quelques mots dans une langue gutturale, son visage s'éclaira.
Eux tuaient beaucoup d'autres.
Eux sud aussi?
Ils sont partout, répondit Delune.
Ils viennent d'attaquer une agglomération proche d'ici. La nouvelle, traduite par la femme, assombrit le visage de son vis-à-vis. Delune se tourna vers l'interprète. « Vous parlez notre langue ?» Elle acquiesça d'un mouvement de tête. Difficile de lui donner un âge, mais elle semblait ne pas avoir dépassé les 30 ans. Grande, sans doute plus d'1,90 m, épaules larges, bras épais et musclés. « Mon nom d'origine est Mayi. Je m'appelle désormais Lislo.
Vous avez subi une attaque des cavaliers ?» demanda Delune.
Vous parlez sans doute de ceux que nous appelons les Teufel, les démons. Nous ne pensions pas qu'ils existaient ici.
Ils sont sans doute dans tout le pays hors site.
Pays hors site? Le pays hors des cités unifiées. Lislo traduit leur conversation aux autres.
Il y avait une cité unifiée près de chez nous, reprit-elle.
Où avez-vous appris à causer notre langue?
Grogna Kolb.
Mes parents étaient originaires de l'ancienne région de France et m'ont appris leur langue.
Qu'est-ce qu'ils sont allés foutre de l'autre côté du Rhin?
C'était des ambulants. Un jour, ils en ont eu marre et se sont installés là où ils se trouvaient. À leur mort, le clan m'a recueilli. J'avais 16 ans.
Comment se fait-il que vous soyez aussi glabre qu'eux? Pour vous, ça peut pas être génétique.
Là-bas, il ne faut que quelques années pour perdre cheveux et poils. Quand avez-vous décidé de partir?
L'idée était dans l'air depuis longtemps. La dernière attaque des Teufel a précipité le mouvement.
D'autres cris d'enfants transpercèrent les cloisons de bois.
Si vous aviez su que les cavaliers ou vos Teufels étaient partout dans le pays hors site, insista Kolb, vous seriez quand même parti ?
Les hivers deviennent chaque année plus rudes dans le nord, les conditions de vie de plus en plus difficiles.
Nous n'avions plus vraiment le choix, répondit Lislo après avoir échangé quelques mots avec l'homme.
Vous connaissiez d'autres populations ? Interrogea Delune.
Celles que nous connaissions ont toutes disparu. Quand ce n'était pas une guerre de clans, c'était une épidémie ou la faim. Alors nous avons construit ces radeaux et nous avons descendu un bout du Rhin et plusieurs rivières jusqu'au fleuve Rhône. Nous n'avons vu que mort et destruction tout au long du voyage.
Il semble évident qu'il nous faille maintenant nous occuper des Teufels.
Le regard de Delune passa d'un visage à l'autre.
Ou nous n'aurons plus aucune chance de survivre.
Lislo traduisit ses propos aux autres. Plusieurs d'entre eux s'exprimèrent avec véhémence, comme s'ils étaient en désaccord.
La plupart d'entre eux ne se sentent pas capables de lutter contre ces monstres, reprit la jeune femme. Ils pensent plutôt qu'il faut fuir.
Fuir ? Releva le trappeur. Où ça ? Pour franchir la Grande Bleue ou la mer Méditerranée, faut autre chose que ces barcasses !
Fuir ne servirait à rien, affirma Delune. Ils nous rattraperaient où que nous allions.
Nous devons comprendre leurs motifs.
Après un nouvel échange entre les passagers des radeaux, Lislo rétablit le silence avec une autorité qui suggérait une place élevée dans la hiérarchie du clan.
Ils veulent savoir d'où te viennent tes certitudes, dit-elle à Delune.
Il posa la main sur son cœur.
J'écoute seulement ce que me dit mon âme.
Et si ton âme se trompait?
Il est possible qu'elle se trompe, mais elle ouvre des chemins que je me dois d'explorer. Et je n'oblige personne à me suivre.
Ils discutèrent de nouveau entre eux, parfois avec une grande vivacité.
Je me demande pourquoi Yosp a dit qu'ils étaient féroces, marmonna Kolb. Ils n'ont pas l'air si méchants que ça.
Des enfants de tous âges sortaient des constructions en bois sur les radeaux, aussi glabres que les adultes, les uns vêtus de peau, les autres entièrement nus.
Voici ce que vous propose Louvik, le chef de notre clan et mon époux, reprit Lislo une fois les discussions terminées. Vous pouvez, si vous le souhaitez, voyager en notre compagnie. Votre point de vue nous intéresse. Nous aurons ainsi le temps de le confronter au nôtre.
Delune se tourna vers ses compagnons.
Qu'en pensez-vous ?
Naya fut la première à répondre.
Je suis pour. Ça nous évitera de marcher.
Pour aussi, renchérit Kolb. Ça nous fera gagner du temps et nous permettra peut-être d'atteindre la Grande Bleue avant l'arrivée de l'hiver.
Et toi, Yosp ?
Le petit homme se mordit la lèvre inférieure et roula des yeux effarés.
Ils me font peur !
Pourquoi ?
Les heures me parlent. Ils sont féroces.
On a de quoi se défendre, déclara le trappeur. Même contre les plus féroces.
Les heures me disent, ils sont bons à certains moments. Ils sont mauvais à d'autres.
Tu n'as pas dit ce que tu en pensais, Delune, intervint Naya.
Le guérisseur observa les hommes et les femmes déployés devant lui.
Je suis d'avis de faire un bout de chemin avec eux, finit-il par répondre.
Bon ou mauvais, nous avons intérêt à nous unir.